ce que la justice s'est servie, jusqu'à preuve du contraire, par Maître Mignard.
Et donc aujourd'hui, on accueille notre toute nouvelle chroniqueuse qui arrive dans l'émission avec une chronique juridique, mais sur un ton un petit peu sarcastique.
Oui, bonjour Margot, bonjour mes chers défenseurs de la veuve et du Saint-Paulin. Je suis Priscilla Mignard, ici pour expliciter des concepts juridiques avec humour et amour. Aujourd'hui, parlons du principe juridique selon lequel le doute doit bénéficier à l'accusé, ou en latin LV3, in dubio pro reo, qu'on peut aussi traduire par « dans le doute, ne mange pas trop d'Oreo », enfin, je crois.
Qu'implique l'adage « le doute doit bénéficier à l'accusé, Priscilla ».
Eh bien, c'est le principe selon lequel on ne peut pas condamner une personne s'il n'y a pas de preuves décisives contre elle. Cet adage trouve une large application en droit pénal. Ainsi, en cas d'hésitation sur la culpabilité de la personne poursuivie, le tribunal doit renoncer à la condamner. Pour condamner, il lui faut donc une certitude, au moins une intime conviction. À ne pas confondre avec l'émission « Confession intime », où là, pas besoin de certitude pour savoir que ben, c'est de la dope. On considère en effet que l'application de la loi ne doit pas conduire à créer plus d'injustice. Donc il vaut mieux s'abstenir d'appliquer le droit plutôt que de le faire à mauvais escient. Comme disait Voltaire en 1748 dans Zadig, il vaut mieux hasarder de sauver un coupable que de condamner un innocent. C'est aussi la devise du parti Les Républicains, allez savoir pourquoi.
Et alors qu'est-ce que ça implique concrètement ?
Cela implique l'obligation pour l'accusation, représentée par le procureur de la République, de recueillir des preuves solides afin que le suspect soit condamné. Ainsi, en 2013, après avoir été auditionné plusieurs fois, avoir été placé sous le statut de témoin assisté, puis mis en examen pour abus de faiblesse, trafic d'influence et recel, Monsieur Nicolas Sarkozy, ancien président de la République française, parce que je le vaux bien, a bénéficié d'un non-lieu dans l'affaire Liliane Bettencourt. Parce que les enquêteurs n'ont pas réussi à réunir les preuves suffisantes montrant qu'il aurait profité de l'état de faiblesse de la richissime héritière du groupe L'Oréal. Bon, en fait, il aurait tout juste récupéré 3 crèmes anti-rides Men Expert et une coloration casting couleur chocolat. Pas pour Carla, mais pour lui. Tiens, j'y songe, et oui, je parle comme un poète du XVIe siècle. Les anagrammes du mot innocence ne feraient-ils pas Nico et coincé ? Coïncidence ? Je ne crois pas. Enfin, concernant le doute bénéficiant à l'accusé, ce n'est pas la preuve de l'innocence que le justiciable doit apporter, mais établir qu'on ne peut pas suffisamment prouver sa culpabilité pour se risquer à le condamner. Bon, vous avez compris ou ça vous fait des nœuds au cerveau comme un discours de Finkielkraut ? En même temps, prouver qu'on n'a pas commis quelque chose, donc apporter la preuve de quelque chose qui n'existe pas, se révélerait être très compliqué. On appelle ça en droit une preuve diabolique. Il y en a quand même qui ont essayé, hein, prouver l'existence de Dieu, trouver du talent à Juliette Armanet.
Alors est-ce qu'il y a un rapport avec la présomption d'innocence ?
En effet Margot, le bénéfice du doute est une application concrète d'un autre principe bien connu du grand public, qui est celui de la présomption d'innocence. Cette présomption d'innocence apparaît pour la première fois en France dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Bon, il me semble qu'il s'est passé d'autres trucs cette année-là, mais je sais plus, ça devait pas être très important. Alors mes petites balances de la justice, vous savez sûrement ce que c'est que la présomption d'innocence. On en entend parler suffisamment dans les médias, alors qu'ils sont les premiers à la bafouer. Ironie quand tu nous tiens. Ça signifie qu'un individu suspecté d'une infraction ne peut être considéré comme coupable avant d'avoir été définitivement jugé comme tel par un tribunal. Pour prendre un exemple concret, là je vais tutoyer vu le taux d'intimité du sujet. Imagine que tu trouves ton mec qui danse la bachata au pieu avec une personne qui n'est pas toi et il te dit le pantalon sur les chevilles. Attention chérie, tu ne peux pas tirer de conclusion hâtive et me jeter la pierre ou tout autre objet contondant susceptible d'infliger d'ignobles souffrances, ce avant qu'un tribunal impartial ne m'ait condamné sur la base de preuves objectives. Oui, tu sais qu'il est capable de le dire. Eh bien, il aura raison. Présomption d'innocence oblige. Espèce de mégère inquisitrice qui voulait le condamner sans lui donner un procès impartial. Ainsi, mes co-débiteurs du mercredi, le non-respect de la présomption d'innocence peut donner lieu notamment à l'attribution de dommages et intérêts ou à la diffusion d'un communiqué de presse. Ce même organisme de presse qui aura cassé du sucre sur le dos du prévenu, la boucle étant ainsi bouclée. Pour conclure, tous les États de droit connaissent ce principe de la présomption d'innocence. Entre nous, vous savez qu'il y a des pays qui ne sont pas des États de droit, mais je vous laisse les citer en silence, dans votre tête, au fin fond d'une forêt sibérienne. Moi, je veux pas mourir, j'ai pas fini de regarder la saison 5 de The Crown. Bien sûr, l'universalité de ces principes de doute et de présomption d'innocence n'empêche pas les erreurs judiciaires. Alors restons vigilants. Mais plus que tout, rappelez-vous que rien, rien ne vous acquittera d'avoir kiffé un jour sur du Aya Nakamura ou d'avoir fait le signe de main de Jul pour délirer sur Insta. Même pas ces grands principes juridiques. Je vous aurais prévenu.